Bonjour à toutes et à tous, Didier Delattre sur IDFM 98 pour un nouveau rendez-vous conte. Des histoires, des récits, des petits points de culture étonnants, ignorés, oubliés, qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes. Des histoires qui vous feront dire, je l'espère, rendez-vous conte, et que je vous raconte en suivant l'ordre alphabétique. La semaine dernière a eu lieu un événement social à la fois semblable et différent de tous ceux qui font la tradition de la France. Une grève, oui, une grève. Mais je veux parler de la grève des médecins généralistes. Des médecins en grève, c'est pas si courant, pour réclamer le doublement du prix de la visite qu'ils souhaitent voir passer de 25 à 50 euros. Rendez-vous compte, oui. Aujourd'hui, c'est comme caducé. Vous savez, ce symbole que la plupart des gens croient être le symbole de la médecine. Erreur générale, à vous faire, comment dire, dresser les cheveux sur la tête, comme des serpents. Pourtant, le caducé est bien une histoire de serpent. Finalement, aujourd'hui, c'est d'abord S comme serpent, avant d'être C comme caducé. Enfin bref, vous allez voir. Alors, ophiophobe, atteint de la peur panique des serpents, de ophios, serpent grec, ophiophobe, s'abstenir. On commence avec le générique d'une série diffusée il y a quelques mois et qui s'intitulait « Le serpent ». Dans le Bangkok des années 70, Charles Sobhraj, alias le serpent, et sa complice Marie-Andrée se font passer pour des diamantaires afin de piéger, dépouiller et assassiner de jeunes touristes occidentaux venus chercher, voyez-vous, le nirvana illusoire dans ces contrées mythiques. C'est à Rahim qui interprète le rôle principal. Odieux personnage, excellent acteur. Déjà César du meilleur acteur 2010 pour le film Un prophète. Mais revenons à nos serpents, puisqu'aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires de serpents. Ouais, des serpents qui sont tout autour de nous. Vous n'imaginez sans doute pas combien ils sont nombreux. Tenez, levez la tête, ils sont là, dans la rue, sur les voitures, cachés dans nos tiroirs. Ils sont là, tous un peu différents, certes, mais tous avec le même ancêtre. Nous les côtoyons sans vraiment savoir d'où ils viennent. Des envahisseurs. Tiens, autre série mythique, Les Envahisseurs. Eh, les années 70 cette fois. Vous reconnaissez le générique? Allez, allez, pas de panique. Ces serpents qui sifflent sur nos têtes sont bénéfiques. Ils veillent sur nous. Rendez-vous compte. Dans la mythologie grecque qui nous fournira la clé de ce mystère, la réputation des serpents est assez effrayante. Méduse, vous savez, la fameuse gorgone avec des serpents vivants en guise de cheveux. Méduse a l'horrible réputation et au sort particulièrement injuste, oui. Méduse était une belle jeune fille dont Poséidon, le dieu de l'océan, tombe amoureux et qu'il viole dans un temple dédié à Athéna. Alors, pour laver cette « souillure », entre guillemets, la déesse Athéna, qui ne peut s'en prendre à Apollon, bien sûr, trop puissant, Athéna punit à sa place, figurez-vous, Méduse, en la transformant en gorgone. Méduse, victime pour l'éternité, dans son corps et dans sa réputation, Méduse qui pétrifie, littéralement qui transforme en pierre, quiconque croise son regard. D'ailleurs, on évite à tout prix de croiser son regard, comme on évite souvent le regard des femmes victimes de la pire agression qui soit, le viol. Méduse qui a donné son nom aux méduses des plages, aux longues tentacules, et dont les piqûres transforment vos membres en béton armé. Méduse, décapitée par Persée, aidée par un certain Hermès, dont nous reparlerons. Et de la tête coupée de Méduse jaillit le célèbre Pégase, le cheval ailé. Athéna, peut-être en guise de repentir, donnera à un certain Esculape, que nous retrouverons également un peu plus tard, deux fioles de sang de Méduse, l'une pour tuer, l'autre pour rendre la vie. Esculape s'en sert et il ressuscite par exemple Hippolyte, le fils de Thésée, le vainqueur du Minotaure. Mais soucieux de ne pas voir perturber l'ordre du monde, Zeus tue Esculape d'un coup d'éclair, avant de le ressusciter sous forme d'un serpent, justement. La boucle est bouclée. Quant à Méduse, son nom demeure étrangement associé à un épisode tragique qui s'est déroulé en mer au XIXe siècle et qui a inspiré au peintre Géricault sa célèbre toile « Le radeau de la Méduse ». Un immense tableau de près de 5 mètres de haut et plus de 5 mètres de large, rendez-vous compte. L'histoire, réfugiée sur un radeau de fortune après l'échouage de la frégate Méduse, les 147 passagers et membres d'équipage subissent faim, déshydratation, folie, voire cannibalisme. Seule une dizaine survivra. Décidément, il ne fait pas bon fréquenter d'une manière ou d'une autre Méduse et ses serpents qui sifflent sur sa tête. Autre reptile monstrueux de la mythologie grecque, Python. Python, le serpent gigantesque qui gardait jadis les sources du mont Parnasse, en deux mots, la montagne consacrée au dieu Apollon et aux neuf muses, filles de Zeus, qui présidaient aux différents arts. Python devient ensuite le gardien du sanctuaire de Delphes, où le serpent, doué de la parole et du don de prophétie, rendait ses propres oracles. Rendez-vous compte. Apollon finira par le tuer car Python, avant sa naissance, avait poursuivi sans relâche Leto, la mère d'Apollon, sur ordre de Héra. La déesse, Héra, protectrice du mariage, était en effet jalouse en raison de la nouvelle infidélité de son mari qui s'était uni à Leto. Alors Apollon transperce Python de ses flèches d'or et se rend ainsi maître de l'oracle de Delphes, où, dès lors, la pitié, du nom de Python, sera la prêtresse qui exprimera les prophéties du dieu. Faut-il y voir le triomphe de la lumière solaire, incarnée par Apollon, la victoire de la conscience et de la raison, sur les émotions, les passions mystérieuses subites et incontrôlables, symbolisées justement par Python le serpent, l'hydre, le scorpion, en relation avec Hadès, le dieu des enfers, et du bouillonnement obscur de l'inconscient? Eh bien, nous inviterons un jour un psychanalyste pour en faire la lumière, bien sûr, sur cette question. Autre créature redoutable, l'hydre de Lerne, un gigantesque serpent de la Grèce antique qui vivait dans les marais et ravageait le pays environnant. Elle était dotée d'un grand nombre de têtes, jusqu'à 50 selon les sources, et elle fut combattue lors du deuxième de ses 12 travaux par Héraclès, Hercule, fils de Dieu, et elle fut difficilement vaincue car il lui poussait deux nouvelles têtes pour chacune qu'Hercule lui coupait. Symbole du serpent capable de se régénérer et de vaincre la mort. À propos d'Héraclès, lui aussi est le fils de Dieu, je vous l'ai dit. Son divin père a un dessein très particulier pour lui. Le roi des dieux, Zeus, a en effet décidé d'avoir un fils capable de venir en aide aux hommes comme aux dieux. Mais, évidemment, au lieu de le concevoir avec son épouse légitime, Héra, Junon pour les Romains, Zeus choisit une belle mortelle, Alcmène. Mais Alcmène est mariée à un certain roi nommé Amphitryon. Tiens, encore un nom connu. Alors, profitant de l'absence d'Amphitryon partant à la guerre, Zeus descend de l'Olympe, prend l'aspect du dit Amphitryon, passe une très longue nuit avec Alcmène. Après avoir persuadé, figurez-vous, Hélios, le dieu du soleil, de ne pas se lever pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, ou ces 3 nuits du coup, Zeus s'unit à Alcmène. Mais Amphitryon, revenu de la guerre, se livre lui aussi au repos du guerrier avec sa femme Alcmène. Vous me suivez? Du coup, lorsqu'Héraclès va naître, Amphitryon est persuadé qu'il s'agit de son propre fils. Peu de temps après la naissance d'Héraclès, Hermès, sur ordre de Zeus, enlève l'enfant et le place dans le lit d'Héra, endormi, Héra sa femme. Et pour devenir immortel, le bébé doit boire en effet au sein de la déesse. Affamé, le bébé s'approche de celle-ci et commence à téter. Mais se réveillant, Héra, indignée, le repousse. Elle sait bien que ce n'est pas son enfant. Alors, le lait divin se répand dans le ciel en une traînée blanchâtre. La Voie lactée, notre Voie lactée. J'adore vraiment cette histoire. Un peu plus tard, alors qu'Héraclès est encore bébé, Héra, toujours jalouse, envoie des serpents pour le tuer. Tiens, revoilà nos serpents. Mais Héraclès, déjà doté d'une force surhumaine, les étrangle sans difficulté dans son berceau. Alerté par les cris des femmes, Alcmène et Amphitryon accourent et trouvent les serpents morts. Le devin Tirésias, qui traduit les pensées et les volontés des dieux de l'Olympe, prophétise alors les futurs exploits du petit Hercule, déjà héros. Mais héros écrit OS à la fin, vous verrez pourquoi. Héros, par sa force exceptionnelle, mais surtout car l'un de ses deux parents est divin, c'est la première définition du héros grec. Eurydice, la belle Eurydice, ne pourra pas, elle, se soustraire à l'attaque d'un serpent comme Héraclès. Elle meurt le jour même de son mariage, mordue par un serpent venimeux. Orphée, son mari, qui grâce à sa lyre à neuf cordes et à son chant, charme aussi bien les humains que les bêtes sauvages, se rend chez Hadès, le dieu des enfers. Il le charme à son tour, toujours grâce à son chant. Alors, tout à fait exceptionnellement, Hadès l'autorise à ramener Eurydice dans le monde des vivants, à condition qu'Orphée ne regarde Eurydice sous aucun prétexte durant la remontée vers le monde des vivants. Vous connaissez la suite ? Eurydice suit Orphée, guidé par la musique de sa lyre. Et lorsqu'Orphée voit poindre à nouveau la lumière du jour, n'entendant aucun bruit et se méfiant un petit peu des promesses d'Hadès, eh bien Orphée se retourne pour voir si son épouse Eurydice est toujours derrière lui. Eh oui, il la regarde. Et Eurydice retourne pour toujours dans le monde des morts. Conclusion, veillez à ce qu'il n'y ait aucun serpent lors de votre mariage, voyez-vous. Ces quelques exemples montrent que les serpents n'ont donc pas bonne presse dans la mythologie. Il faut cependant nuancer. Allez, on en reparle après cette chanson de Serge Gainsbourg de 1962, « Le serpent qui danse », poème de Charles Baudelaire paru dans « Les fleurs du mal » dans lequel Baudelaire évoque sa maîtresse Jeanne Duval.
Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin. Mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle de doux ni d'amer sont de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton.
On dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton, écrit Baudelaire. Justement, tout commence sur un chemin de campagne. Un homme marche rapidement. Si rapidement qu'il donne l'impression, de ne pas toucher terre. Il tient un bâton d'olivier, fraîchement taillé. Soudain, notre voyageur aperçoit devant lui deux serpents qui s'affrontent dans un duel qui sera assurément mortel. Alors, il plante son bâton entre les deux reptiles. Ceux-ci, en proie à la rage, s'entourent en sens contraire autour du bâton, entrecroisant leurs deux corps souples qui brillent au soleil. Ils s'enroulent si parfaitement que seule leur tête est désormais mobile. Croix venin, prêt à mordre l'adversaire, mais impuissant à porter l'attaque finale. Eh bien, ils resteront ainsi pour l'éternité, ennemis à jamais, enlacés comme deux amants. Notre voyageur, au pied léger, satisfait, continue sa route. Son bâton alourdi par les deux serpents pèse certes davantage, mais un étrange sourire flotte sur ses lèvres. ne vient-il pas d'accomplir un geste qui, depuis des millénaires, reste dans nos mémoires? Ce voyageur céleste vient, en effet, de créer tout simplement le caducée qui va traverser les siècles et l'histoire, le caducée qui va être à l'origine d'une des confusions les plus répandues encore de nos jours. Voyageur, vous l'avez bien entendu reconnu. Il s'agit du dieu grec Hermès, Mercure pour les Romains. Hermès aux multiples fonctions, messager des dieux de l'Olympe. Alors, pour accomplir au plus vite cette mission, il est équipé d'une paire de sandales et d'un casque, tous deux dotés de petites ailes. Voilà pourquoi il donne l'impression de ne pas toucher terre. Hermès, également dieu des échanges, du mouvement, du voyage, gardien des routes et des carrefours, protecteur de tous ceux qui, pour des raisons honorables ou condamnables, se déplacent souvent, dieu du commerce, dieu de la ruse et des voyageurs, mais aussi dieu des voleurs, dieu qui accompagne l'âme des morts jusqu'aux enfers, dieu aussi de la transformation, de l'adaptation et du secret, le dieu des alchimistes, rendez-vous compte. Ce bâton aux deux serpents enlacés est surmonté des deux ailes, attribut d'Hermès. C'est notre caducée. Est-ce que vous savez qu'en latin, caducée signifie simplement « baguette du héros » Mais cette fois-ci, « héros » écrit « aut » à la fin, et non « os » comme pour Hercule. Le héros, c'est un personnage officiel, chargé de transmettre les ordres des dieux, chargé de faire les annonces dans les assemblées, de déclarer la guerre ou la trêve. Le caducée, symbole de paix, déjà présent dans les cultures indiennes et mésopotamiennes. Le caducée, symbole de l'éloquence, l'art qui permet de diriger le monde par la parole. Savez-vous que, pour cette raison, le caducée d'Hermès figure, mais les ailes placées en bas, ouais, sur la tribune de notre Assemblée nationale, rendez-vous compte. Pour les alchimistes, le caducée représente l'équilibre des principes antagonistes, soufre et mercure, fixe, volatile, humide et sec, chaud et froid, ces principes antagonistes qui s'unifient dans l'or de la tige, l'axe du monde du caducée. Ce sont les clés permettant d'obtenir la médecine universelle, censée pouvoir guérir toute maladie humaine, y compris la vieillesse. C'est d'ailleurs le principe même des vaccins, obtenus à partir d'un échantillon de la maladie. Poison, guérison, rien n'est mauvais, rien n'est bon. Les choses sont neutres à la base, c'est l'humain qui détermine leur bienfaisance ou leur nuisance. Vous êtes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte consacré à la lettre C, C comme caducée. Nos instincts violents peuvent, comme les serpents, jaillir à tout moment du monde souterrain, notre monde souterrain. La maîtrise de soi permet seule de les dominer. C'est, ce devrait être, la marque de l'être humain. Les serpents, réduits à eux-mêmes à l'impuissance en s'enroulant autour du bâton d'Hermès, l'arbre de vie, signifient l'hubris. Vous savez, cette notion grecque de la démesure, de la vanité, de l'orgueil. Le caducée est la victoire de l'âme pervertie par la tentation de la violence et de l'excès, l'âme qui a retrouvé son équilibre en les dominant. Issue spirituelle positive, symbolisée par les ailes au sommet de ce caducée, finalement bien complexe. Pour les chrétiens, le serpent est au contraire le démon qui provoque le péché originel, la tentation, la perte du paradis, l'avènement de la mort, mais aussi l'accès à la connaissance. Adam et Ève, le serpent, et cette fameuse pomme qui n'était pas une pomme. Erreur universelle, encore une fois, rendez-vous compte, erreur à rectifier ensemble lors d'une autre émission. Autre erreur très répandue à rectifier, considérer le caducée d'Hermès, que je viens de vous présenter, comme le symbole fondateur de la médecine. Nous en reparlons après cette chanson intitulée, justement, « Médecine », interprétée par Moji X-Boy.
Yeah. mais on se consume en même temps. T'aimes pas quand je parle, mais t'inquiète pas, j'ai le temps. Avec toi je suis ailleurs, je te regarde et je me sens ailleurs, hey. J'oublie tous mes malheurs, mes mains posées sur ta taille, hey. Je te veux encore, je veux pas que tu t'inquiètes, serre-moi ton corps. Et puis bon appétit, je sais que je suis en tort, viens on s'embrouille après. Avant la mort, avant l'amnésie, tes initiales dans ma tête. Donne-moi ton cœur, je veux pas m'enfuir avec. Y'a nos deux noms décrits sur la cassette. Y'a nos deux doigts qui sont sur la gâchette. Malgré ça tout est kilométré, sur la route à 300 km/h. Y'a un truc, un détail qu'on ne maîtrise qu'en réalité tout est chronométré. Pas besoin d'un pansement, tu nettoies le sang sur mes lèvres. Pas besoin d'un pansement, je veux pas sortir de ce rêve. Fais-moi oublier mes problèmes. Dans moi t'es bien que toi et puis à l'oseille. Et moi encore une fois, encore une deuxième. Et moi encore une fois, encore une deuxième. Baby t'es ma drogue, t'es ma médecine. J'ai besoin de toi pour me barrer d'ici. Viens on se voit encore jusqu'à l'OD. La vie à la mort jusqu'à l'autre. Baby t'es ma dope, t'es ma LSD. Avec toi je suis stone, je veux que tu restes. Viens on se voit encore jusqu'à l'autre. À la vie à la mort jusqu'à l'autre.
Ne viens pas pour toi, la terre ne fait que trembler. On s'aime, on se fait la guerre comme à l'époque des tranchées. Mais baby t'es ma drogue, un peu de toi je plonge.
Baby, t'es ma drogue, t'es ma médecine. Ouais, superbe chanson. Et des paroles que Baudelaire n'aurait peut-être pas rognées dans sa section Paradis artificiel des fleurs du mal.
Toute la médecine que j'aime, elle vient de là, elle vient de ma blouse. Les mots ne sont jamais les mêmes quand je le dis avec ma blouse. J'en ai en soie, j'en ai en laine. J'ai toute une collection de blouses. Je les porte toute la semaine. Et je les porterai toujours. La médecine vivra tant que vivra ma blouse. Ma blouse, ça veut dire que je m'aime. Même si t'as mal à en crever, tu pleures, je la porte quand même. C'est l'infirmière que je veux garder. J'y mets mes mains, j'y mets mon peigne. Et tout ça, ça rentre dans ma blouse. Je la porte d'autant que tu saignes. Et je la porterai toujours. Toute la médecine que j'aime, elle vient de là, elle vient de ma blouse. Les mots ne sont jamais les mêmes quand je les dis avec ma blouse.
Alors là, vous avez sans doute reconnu le journaliste et médecin Michel Simès, pastichant pendant le premier confinement dû au coronavirus, pastichant toute la musique que j'aime, cet hymne de Johnny à la musique blues. Et dans la bouche de Michel Simès, cela devient toute la médecine que j'aime, elle vient de là, elle vient de ma blouse. Et il chante en soutien, bien sûr, au personnel soignant. Erreur à rectifier donc, je vous le disais. Attention, attention, le caducée d'Hermès, avec ses ailes et ses deux serpents, ne doit pas être confondu avec le bâton d'Esculape. Esculape ? Esculape, le dieu de la médecine chez les Grecs et les Romains. Fils d'Apollon, Esculape apprend auprès du centaure Chiron les vertus thérapeutiques des plantes sauvages, les incantations magiques, la chirurgie qui redresse les membres tordus. La légende rapporte qu'un jour, voyant un serpent se diriger vers lui, Il tend son bâton, tiens donc, il tend son bâton dans sa direction, l'animal s'y enroule évidemment, Esculape frappe le sol et tue la bête. Aussitôt, un second serpent apparaît, tenant dans sa gueule une herbe mystérieuse avec laquelle il rappelle à la vie le premier reptile. Ce serpent, enroulé autour de son bâton, est une couleuvre inoffensive, comme on le sait pour les humains. À l'opposé des deux vipères furieuses d'Hermès, le bâton d'Esculape ne comporte donc qu'un seul serpent, une couleuvre, et ne porte jamais l'attribut d'Hermès que sont ses ailes. Il est parfois surmonté d'un miroir, certes, dont nous verrons bientôt la signification. Esculape devient le dieu bienfaisant, guérisseur des maladies des hommes, soulageant leurs souffrances. Des serpents non venimeux se promenaient en toute liberté dans son temple d'Épidore. Et Esculape apparaissait alors en songe aux prêtres et leur révélait le remède qui rendait la santé. Rendez-vous compte. Vous êtes toujours bien sur IDFM 98 à l'écoute de ce rendez-vous compte consacré à la lettre C. C comme caducée.
Infirmières, agents de sécurité, qui ont mille raisons de rester confinés, mais leur propre raison de ne pas laisser tomber. Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, oubliant la fatigue, la peur, les heures, et loin des beaux discours, des grandes théories, à leur tâche chaque jour, sans même attendre un merci. Ils sauvent des vies.
Cette fois, vous avez reconnu, c'est Jean-Jacques Goldman qui, toujours pendant le premier confinement, a réécrit les paroles de sa chanson « Il changeait la vie » pour rendre lui aussi hommage aux soignants. Une anecdote. Au XIXe siècle, un éditeur imprime sur des ouvrages de médecine le caducée d'Hermès, qui alors devient de plus en plus l'emblème des professions médicales. Hermès, le dieu de la ruse, du vol et des voleurs, qui accompagne les âmes des morts jusqu'au monde d'Hadès, les enfers. Dites-moi, c'est pas vraiment adapté quand on a pour vocation de soigner et de guérir, non? Ce caducée ne peut donc pas être utilisé comme emblème des médecins et autres praticiens de la santé. Il décide alors d'adopter, non pas le caducée d'Hermès, évidemment, mais le serpent et le bâton d'Esculape comme symbole de leur profession. Et c'est depuis 1945 que le bâton d'Esculape est l'emblème des médecins en Europe et en France. C'est donc un abus de langage et une confusion de l'esprit de l'appeler caducée, terme réservé à la tribu d'Hermès. Le caducée, c'est le symbole d'Hermès avec ses ailes et ses deux serpents mortels. Esculape, le dieu de la médecine, c'est un seul serpent inoffensif et pas d'ailes, un miroir au bout de son bâton. Confusion largement répandue, caducée d'Hermès, bâton d'Esculape, une confusion que j'aurais peut-être contribué à rectifier, rendez-vous compte. Bref, vous l'avez compris, il faut parfois avoir confiance dans les serpents, comme le chante à Mowgli, car le serpent séducteur du livre de la jungle.
Attention, va descendre. Fais un son sans méfiance. Je suis là. Aie confiance. Le silence propice te berce. Souris et sois complice.
J'espère que vous avez aimé serpenter avec moi entre tous ces reptiles mythologiques, bienfaisants ou redoutables, au cœur de notre monde bien réel. Rendez-vous compte, une émission conçue, réalisée et présentée par Didier Delatte sur IDFM 98. À la semaine prochaine, même heure sur IDFM.